Chapitre 12. Trois années de calme suivirent les événements que nous venons de raconter. La bande de Robin Hood avait pris un développement extraordinaire et la renommée de son intrépide chef s'était répandue par toute l'Angleterre. La mort de Henri II avait fait monter son fils Richard sur le trône et celui-ci, après avoir dilapidé les trésors de la couronne, était parti pour les croisades, abandonnant la régence du royaume au prince Jean, son frère, homme de mœurs dissolues, d'une avarice extrême, et qu'une grande faiblesse d'esprit rendait impropre à remplir les devoirs de la haute mission qui lui était confiée. La misère, déjà si grande dans la classe du peuple sous le règne de Henri II, devint un dénuement complet pendant la longue période de cette sanguinaire régence. Robin Hood soulageait, avec une générosité inépuisable, les cruelles souffrances des pauvres de Nottinghamshire et de Derbyshire. Aussi était-il l'idole de tous ces malheureux. Mais s'il donnait aux pauvres, en revanche, il prenait aux riches, et Normands, prélats et moines, contribuaient largement, à leur grand désespoir, aux bonnes œuvres du noble proscrit. Marianne habitait toujours la forêt et les deux époux s'aimaient aussi tendrement qu'au premier jour de leur heureuse union. Le temps n'avait point amoindri la passion de William pour sa charmante femme et, aux yeux du fidèle Saxon, Maud gardait comme un pur diamant son immuable beauté. Petit Jean et Much se félicitaient encore du choix qu'ils avaient fait en prenant pour femme l'un la douce Winifred, l'autre l'espiègle Barbara. Et quant aux frères de Will, ils n'avaient eu aucune raison pour se repentir de leur brusque mariage. Ils étaient heureux et voyaient la vie dans un prisme couleur de rose. Avant de nous séparer à jamais de deux personnages qui ont joué un rôle important dans notre récit, nous allons leur rendre une amicale visite au château Duval, dans la vallée de Mansfeld. Alan Clare et Lady Christabel vivaient toujours heureux l'un par l'autre. Leur habitation, construite en grande partie sous les ordres du chevalier, était une merveille de confort et de bon goût. Une ceinture de vieux arbres interdisait la vue des jardins à tout regard indiscret et semblait mettre une barrière infranchissable autour de cette poétique demeure. De beaux enfants aux doux visages, fleurs vivantes de cette oasis de l'amour, animaient de leur turbulente activité le calme repos du vaste domaine. Leurs voix rieuses ont réveillé l'écho et les pas agiles de leurs petits pieds laissaient leur fugitive empreinte sur le sable des allées du parc. Alan et Christabel étaient restés jeunes de cœur, d'esprit et de visage, et pour eux, les semaines avaient la courte durée d'un jour, le jour passait rapide comme une heure. Christabel n'avait pas revu son père depuis l'époque de son mariage avec Alan Clare dans l'abbaye de Linton. Car l'irascible vieillard s'était cruellement obstiné à repousser les tentatives de réconciliation faites par sa fille et par le chevalier. La mort du baron affecta profondément Christabel. Mais combien sa douleur eût été plus vive si, en perdant l'auteur de ses jours, elle eût perdu un véritable père. Alan avait manifesté l'intention de faire valoir ses droits à la baronnie et au comté de Nottingham, et, sur le conseil de Robin, qui lui recommandait de hâter le moment de cette juste réclamation, il allait écrire au roi, lorsqu'il apprit que le château de Nottingham, avec ses revenus et ses dépendances, était devenu la propriété du prince Jean. Alan était trop heureux pour risquer son repos et la perte de son bonheur dans une lutte que la supériorité de son adversaire pouvait rendre aussi dangereuse qu'inutile. Il ne fit donc aucune démarche et ne regretta point la perte de ce magnifique héritage. Les attaques dirigées par Robin Hood contre les Normands et les ecclésiastiques devinrent si nombreuses et si préjudiciables à la fortune des riches personnages qu'elles arrivèrent à réveiller l'attention du grand chancelier d'Angleterre, Longchamp, évêque d'Ely. L'évêque résolut de mettre fin à l'existence des joyeux archers et il prépara une sérieuse expédition. 500 hommes, à la tête desquels se mit le prince Jean, descendirent au château de Nottingham. Et là, après quelques jours de repos, ils prirent des dispositions pour s'emparer de Robin Hood. Celui-ci, promptement informé des intentions de la respectable troupe, ne fit qu'en rire et se prépara à déjouer toutes les tentatives sans exposer ses hommes au hasard d'un combat. Il fit cacher sa bande, habilla une douzaine de forestiers de différentes façons et les envoya au château où ils se présentèrent pour servir de guides à la troupe dans les inextricables détours de la forêt. Ses offres de service furent acceptées avec empressement par les chefs de la troupe, et comme la forêt couvrait à peu près 30 000 de terrain, il est facile de se rendre compte des tours et des détours que les guides firent faire aux malheureux soldats. Tantôt, la troupe entière s'engouffrait dans le creux des vallons, tantôt elle s'enfonçait jusqu'à mi-jambe dans l'eau bourbeuse des marécages, tantôt enfin, éparpillée sur toutes les hauteurs, elle maugréait avec désespoir contre les devoirs du soldat, envoyant à tous les diables le grand chancelier d'Angleterre, Robin Hood et son invisible bande, car il est utile de faire observer que pas un seul pourpoint vert ne parut à l'horizon. À la chute du jour, les soldats se trouvaient invariablement à 7 ou 8 milles du château de Nottingham, qu'il fallait regagner à moins de passer la nuit à la Belle Étoile. Ils rentraient alors, épuisés de fatigue, mourant de faim et n'ayant rien vu qui pût révéler la présence des joyeux hommes. Pendant 15 jours, on renouvela ces fatigantes promenades et leur résultat fut constamment le même. Le prince Jean, rappelé à Londres par ses plaisirs, abandonna la partie et reprit avec sa troupe le chemin de la ville. 2 ans après cette dernière expédition, Richard entra en Angleterre et le prince Jean, qui redoutait à bon droit la présence de son frère, vint chercher un refuge contre la colère du roi derrière les murs du vieux château de Nottingham. Richard Cœur de Lion, qui avait appris l'odieuse conduite du régent, ne resta que 3 jours à Londres et, accompagné d'une faible troupe, marcha résolument contre le rebelle. Le château de Nottingham fut mis en état de siège. Après 3 jours de combat, il se rendit à discrétion et le prince Jean parvint à s'évader. Tout en combattant comme le dernier de ses soldats, Richard remarquait qu'une troupe de vigoureux yeomen lui prêtait main forte et que c'était grâce à son vaillant secours qu'il avait obtenu la victoire. Après le combat, et une fois installé au château, Richard demanda des renseignements sur les habiles archers qui étaient venus à son aide. Mais personne ne put lui répondre et il fut obligé d'adresser sa question au shérif de Nottingham. Ce shérif était le même homme à qui Robin Hood avait joué le mauvais tour de l'amener dans la forêt et de lui faire payer sa visite 300 écus d'or. Sous l'influence de ce cuisant souvenir, le shérif répondit au roi que les archers dont il était question n'étaient autres, bien certainement, que ceux du terrible Robin Hood. « Ce Robin Hood, ajouta le rancunier aubergiste, est un fieffé coquin. Il nourrit sa bande aux dépens des voyageurs, il dévalise les honnêtes gens, tue les serfs du roi et commet journellement toutes sortes de brigandages. » Albert Lindsay, le frère de lait de la jolie Maude, qui avait eu la bonne fortune de conserver la place de gardien du château, se trouvait par hasard auprès du roi au moment de cet entretien. Entraîné par un sentiment de reconnaissance envers Robin et par l'élan naturel à un caractère généreux, il oublia sa modeste condition, fit un pas vers l'auguste auditeur du shérif et dit d'un ton pénétré « Sire, Robin Hood est un honnête Saxon, un malheureux proscrit. S'il dépouille les riches du superflu de leur fortune, il soulage toujours la misère des pauvres et du comté de Nottingham à celui de York, le nom de Robin Hood est prononcé avec le respect d'une éternelle reconnaissance. Connaissez-vous personnellement ce brave archer ? Demanda le roi à Albert. Cette question rappela Albert à lui-même. Il devint pourpre et répondit avec embarras. J'ai vu Robin Hood, mais il y a longtemps, et je répète à votre majesté le bien que disent les pauvres de celui qui les empêche de mourir de faim. « Allons, mon brave garçon, dit le roi en souriant, relève la tête et ne renie pas ton ami. Par la Sainte Trinité, si sa conduite est telle que tu viens de nous l'apprendre, c'est un homme dont l'amitié doit être précieuse. Je serai, je l'avoue, très enchanté de voir ce proscrit, et comme il m'a rendu service, il ne sera pas dit que Richard d'Angleterre se soit montré ingrat, même envers un outlaw. Demain matin, je descendrai dans la forêt de Sherwood. » Le roi tint parole. Dès le lendemain, accompagné d'une escorte de chevaliers et de soldats, conduit par le shérif, qui ne trouvait pas cette promenade fort attrayante, il explora les sentiers, les routes, les clairières du vieux bois. Mais la recherche fut complètement inutile, Robin Hood ne se montra pas. Fort mécontent de l'insuccès de sa démarche, Richard fit appeler un homme qui remplissait les fonctions de garde forestier dans les bois de Sherwood et lui demanda s'il connaissait un moyen de rencontrer le chef des proscrits. « Votre Majesté pourrait fouiller la forêt pendant 1 an, répondit cet homme. sans apercevoir l'ombre même d'un outlaw si elle s'y présente accompagnée d'une escorte. Robin Hood évite de se battre autant que possible, non par crainte, car il connaît si bien la forêt qu'il n'a rien à redouter, même de l'attaque de 500 ou 600 hommes, mais par modération et par prudence. Si votre majesté désire voir Robin Hood, qu'elle s'habille en moine, ainsi que 4 ou 5 chevaliers, je servirai de guide à votre majesté. Je jure, par Saint-Eustan, que tout le monde sera en sûreté. Robin Hood arrête les ecclésiastiques, il les héberge, il les dépouille, mais il ne les maltraite pas. « De par la Sainte-Croix, forestier, tu parles d'or, dit le roi en riant, et je vais suivre ton ingénieux conseil. Le costume d'un moine me siera fort mal. N'importe qu'on aille me chercher une robe de religieux. » L'impatient monarque revêtit bientôt un costume d'abbé, fit choix de 4 chevaliers qui se couvrirent d'une robe de moine, et d'après un nouveau stratagème indiqué par le forestier, on harnacha 3 chevaux de manière à laisser supposer qu'ils portaient la charge d'un trésor. À 3 milles environ du château, le garde forestier qui servait de guide au prétendu moine s'approcha du roi et lui dit « Monseigneur, regardez à l'extrémité de la clairière, vous y verrez Robin Hood, Petit Jean et Will Écarlate, les 3 chefs de la bande. »« Bon, dit joyeusement le roi. » Et faisant hâter le pas de son cheval, Richard feignit de vouloir s'échapper. Robin Hood bondit sur la route, saisit la bride de l'animal et le maintint immobile. « Mille pardons, sire abbé, dit-il, veuillez vous arrêter un peu et recevoir mes compliments de bienvenue. »« Pêcheur profane !» s'écria Richard, cherchant à imiter le langage habituel aux gens d'église. « Qui es-tu pour te permettre d'arrêter la marche d'un saint homme qui va accomplir une mission sacrée ?»« Je suis un yeoman de cette forêt, répondit Robin Hood, et mes compagnons vivent, ainsi que moi, des produits de la chasse, et des générosités des pieux membres de la Sainte Église. « Tu es sur mon âme un hardi coquin, » répondit le roi en dissimulant un sourire, « d'oser me dire à mon nez et à ma barbe que tu manges mais les serfs du roi et dévalise les membres du clergé. Par Saint-Hubert, tu possèdes du moins le mérite de la franchise. » La franchise est la seule ressource des gens qui ne possèdent rien, repartit Robin Hood. Mais ceux auxquels appartiennent les rentes, les domaines, les monnaies d'or et d'argent peuvent s'en passer, car ils n'ont sauré que faire. « Je crois, noble abbé, continua Robin d'un ton de persiflage, que vous êtes du nombre des heureux dont je parle. C'est pourquoi je me permets de vous demander de venir en aide à nos modestes besoins, à la misère des pauvres gens qui sont nos amis et nos protégés. » Vous oubliez trop souvent, mes frères, qu'il y a aux alentours de vos riches demeures des maisons dépourvues de pain, et cependant, vous possédez encore plus d'or que vous n'avez de fantaisies à satisfaire. Tu dis peut-être la vérité, yeoman, répondit le roi, oubliant à demi le caractère religieux dont il s'était revêtu, et l'expression de loyale franchise que respire ta physionomie me plaît singulièrement. Tu as l'air beaucoup plus honnête que tu ne l'es en réalité. Néanmoins, en faveur de ta bonne mine et pour l'amour de la charité chrétienne, je te fais don de tout l'argent que je possède en ce moment-ci, 40 pièces d'or. Je suis fâché de n'en point avoir davantage, mais le roi, qui, tu l'as appris sans doute, habite depuis quelques jours le château de Nottingham, a presque entièrement vidé mes poches. Cet argent est donc à ton service, parce que j'aime la belle figure et les têtes énergiques de tes robustes compagnons. » En achevant ces mots, le roi tendit à Robin Hood un petit sac de cuir qui contenait 40 pièces d'or. « Vous êtes le phénix des ecclésiastiques, messire abbé, dit Robin en riant, et si je n'avais pas fait le vœu de pressurer plus ou moins tous les membres de la Sainte Église, je refuserais d'accepter votre généreuse offrande. Cependant, il ne sera pas dit que vous aurez eu à souffrir trop cruellement de votre passage dans la forêt de Sherwood. » Votre escorte et vos chevaux passeront en toute liberté, et de plus, vous me permettrez de ne recevoir que 20 pièces d'or. Tu agis noblement, forestier, répondit Richard, qui parut sensible à la courtoisie de Robin, et je me ferai un plaisir de parler de toi à notre souverain. Sa Majesté te connaît un peu, car elle m'a dit de te saluer de sa part si j'avais la bonne fortune de te rencontrer. Je crois, entre nous soit dit, que le roi Richard, qui aime la bravoure dans quelque lieu qu'il la rencontre, ne serait pas fâché de remercier de vive voix le brave yeoman qui l'a aidé à ouvrir les portes du château de Nottingham, et de lui demander pour quelle raison il a disparu avec ses vaillants compagnons aussitôt après la bataille. Si j'avais un jour le bonheur de me trouver en présence de Sa Majesté, je n'hésiterais pas à répondre à cette dernière question. Mais pour le moment, cher abbé, parlons d'autre chose. J'aime tendrement le roi Richard parce qu'il est anglais de cœur et d'âme, quoiqu'il appartienne par les liens du sang à une famille normande. Nous sommes tous ici, prêtres et laïcs, les fidèles serviteurs de Sa Majesté très gracieuse, et si vous voulez bien y consentir, sœur abbé, nous boirons de compagnie à la santé du noble Richard. La forêt de Sherwood sait être gratuitement hospitalière quand elle reçoit sous l'ombrage de ses vieux arbres des cœurs saxons et des moines généreux. J'accepte avec plaisir ton aimable invitation, Robin Hood, répondit le roi, et je suis prêt à te suivre où il te plaira de me conduire. Je vous remercie de cette confiance, bon religieux, dit Robin en dirigeant le cheval monté par Richard vers un atelier qui allait aboutir à l'arbre du rendez-vous. Petit Jean, Will Écarlate et les quatre chevaliers déguisés en moines suivirent le roi précédé par Robin. La petite escorte était à peine engagée dans le sentier quand un cerf, effrayé par le bruit, traversa le chemin avec rapidité. Mais, plus alerte encore que le pauvre animal, la flèche de Robin lui transperça le flanc d'un coup mortel. « Bien frappé, bien frappé !» cria joyeusement le roi. « Ce coup n'a rien de merveilleux, sœur abbé, » dit Robin en regardant Richard d'un air quelque peu surpris. « Tous mes hommes, sans exception, peuvent tuer un cerf de cette façon-là, et ma femme elle-même s'est tirée de l'arc et accomplir des tours d'adresse bien supérieurs au faible espoir que je viens d'accomplir sous vos yeux. « Ta femme, répéta le roi d'un ton interrogateur, tu as une femme ? Par la messe, je suis curieux de faire connaissance avec celle qui partage les périls de ton aventureuse carrière. « Ma femme n'est pas la seule de son sexe, messire abbé, qui préfère un cœur fidèle et une sauvage demeure à un amour perfide et au luxe de l'existence des villes. » « Je te présenterai ma femme, sœur abbé, cria Will Écarlate, et si tu ne reconnais pas que sa beauté est digne d'un trône, tu me permettras de déclarer que tu es aveugle ou bien que ton goût est des plus détestables. » « Par Saint Dunstan, repartit Richard, la voix populaire touche juste en vous appelant les joyeux hommes. Rien ne vous manque ici, jolie femme, gibier royal, fraîche verdure, liberté entière. » « Aussi sommes-nous très heureux, messire, » répondit Robin en riant. L'escorte atteignit bientôt la pelouse où le repas, déjà préparé, attendait les convives et ce repas, somptueusement fourni des viandes parfumées de la venaison, excita par son seul aspect le vigoureux appétit de Richard Cœur de Lion. « Par la conscience de ma mère, » s'écria-t-il, « hâtons-nous de dire que Dame Éléonore avait si peu de conscience que c'était pure plaisanterie d'en appeler à elle. » « Voici un dîner véritablement royal !» Puis le prince prit place et se mit à manger avec un plaisir extrême. Vers la fin du repas, Richard dit à son hôte « Tu m'as donné le désir de faire connaissance avec les jolies femmes qui peuplent ton vaste domaine. Présente-les-moi, je suis curieux de voir si elles sont dignes, ainsi que me l'a fait entendre ton compagnon aux cheveux rouges, d'orner la cour du roi d'Angleterre. » Robin envoya Will à la recherche des belles nymphes du bois et dit à ses hommes de préparer les jeux auxquels ils se livraient les jours de repos. « Mes gens vont essayer de vous divertir un peu, sœur abbé, » dit Robin en reprenant place auprès du roi, « et vous verrez que nos plaisirs et le genre quelque peu extraordinaire de notre existence n'ont rien en eux-mêmes de fort répréhensible. Et lorsque vous vous trouverez en présence du bon roi Richard, vous lui direz « Je vous demande cela comme une faveur » que les joyeux hommes de la forêt de Sherwood ne sont ni à craindre pour les braves Saxons, ni méchants à l'égard de ceux qui compatissent aux inévitables misères de leur rude existence. Sois tranquille, brave Human, Sa Majesté sera instruite de tout ce qui se passe ici, aussi bien que si elle eût à ma place partagé ton repas. Vous êtes, messire, le plus gracieux abbé que j'ai rencontré de ma vie, et je suis fort aise d'avoir le plaisir de vous traiter comme un frère. Maintenant, veuillez accorder votre attention à mes archers. Ils sont d'une adresse que rien n'égale, et afin de vous amuser, ils font, j'en suis certain, accomplir des merveilles. Les hommes de Robin commencèrent alors à tirer de l'arc avec une sûreté de main et de coup d'œil si extraordinaire que le roi les complimenta avec une expression de réelle surprise. L'exercice durait depuis une demi-heure environ lorsque Will Écarlate parut, amenant avec lui Marianne et Maud, revêtues d'un costume d'Amazone vert de drap de Lincoln et portant l'une et l'autre un arc et un carquois de flèches. Derrière ce trio marchaient Barbara, Winifred, la blanche Lila et les jolies femmes des jeunes Gamuel. Le roi ouvrit de grands yeux étonnés et contempla sans mot dire les charmants visages qui rougissaient sous son regard. « Sœur Abbé, dit Robin en prenant la main de Marianne, je vous présente la reine de mon cœur, ma femme bien-aimée. Tu peux hardiment ajouter la reine de tes joyeux hommes, brave Robin, s'écria le roi. Et tu as raison d'être fier d'inspirer un tendre amour à une aussi charmante créature. Chère dame, continua le roi, permettez-moi de saluer en vous la souveraine du grand bois de Sherwood et de vous rendre les hommages d'un sujet fidèle. En achevant ces mots, le roi mit un genou en terre, prit la blanche main de Marianne et l'effleura respectueusement. Votre courtoisie est grande, sœur abbé, dit Marianne d'un ton modeste. Mais veuillez vous souvenir, je vous prie, qu'il ne sied pas à un homme de votre saint caractère de s'incliner ainsi devant une femme. Vous ne devez rendre qu'à Dieu ce témoignage d'humilité et de respect. Voilà une réprimande bien morale pour la femme d'un simple forestier, murmura le roi en allant reprendre sa place sous l'arbre du rendez-vous. Sœur abbé, voici ma femme, cria Will en entraînant Maud sur les pas de Richard. Le prince regarda Maud et dit en souriant, cette belle personne est sans doute la dame qui ferait honneur au palais d'un roi. Oui, messire, dit Will. Eh bien, mon ami, reprit Richard, je partage ton opinion, et si tu veux bien me le permettre, je prendrai un baiser sur les belles joues de celle que tu aimes. William sourit, et le roi, qui prit ce sourire pour une réponse affirmative, embrassa galamment la jeune femme. Laissez-moi vous dire un mot à l'oreille, sœur abbé, dit Will en se rapprochant du roi, qui se prêta avec complaisance au désir du jeune homme. Vous êtes un homme de goût, continua Will, et vous n'aurez jamais rien à craindre dans la forêt de Sherwood. À dater d'aujourd'hui, je vous promets une réception cordiale chaque fois qu'un heureux hasard vous conduira au milieu de nous. Je te rends grâce pour ta courtoisie, bon Human, dit le roi avec gaieté. Ah ah, mais que vois-je encore? S'écria Richard, les yeux attachés sur les sœurs de Will, qui, accompagnées de Lila, se présentaient devant lui. En vérité, mes garçons, vos dryades sont de véritables fées. Le roi prit la main de la jeune Lila. Par Notre-Dame, murmura-t-il, je ne croyais pas qu'il pût exister une femme aussi belle que l'est ma douce Bérangère. Mais sur mon âme, je suis forcé de reconnaître que cet enfant l'égale en candeur et en beauté. Ma mignonne, dit le roi en serrant la petite main qu'il tenait dans les siennes, tu as fait choix d'une existence bien rude, bien dépourvue des plaisirs de ton âge. Ne crains-tu pas, pauvre enfant, que les vents orageux de cette forêt ne viennent à détruire ta frêle vie comme ils détruisent les jeunes fleurs ? Mon père, répondit doucement Lila, le vent se mesure à la force des arbrisseaux. Il épargne les plus faibles. Je suis heureuse ici. Une personne qui m'est chère habite le vieux bois et auprès d'elle, je ne connais pas la douleur. Tu as raison d'avouer ton amour si l'homme que tu aimes est digne de toi, ma douce enfant, répondit Richard. Il est digne d'un amour plus grand encore que celui que je lui porte, mon père, répondit Lila. Et cependant, je l'aime aussi tendrement qu'il m'est possible d'aimer. En achevant ces mots, la jeune femme rougit, les grands yeux bleus de Richard attachés sur elle un regard si ardent que, saisie d'une indéfinissable crainte, elle retira doucement sa main de l'étreinte du roi et alla s'asseoir auprès de Marianne. « Je t'avoue, maître Robin, dit le roi, que dans l'Europe entière, il n'y a pas une seule cour qui puisse se vanter de réunir autour d'un trône autant de femmes jeunes et belles que j'en vois autour de nous. J'ai vu les femmes de divers pays et je n'ai rencontré nulle part la tranquille et suave beauté des femmes saxonnes. Je veux être maudit si une seule des fraîches figures qu'embrasse mon regard ne vaut pas une centaine des filles de l'Orient ou de toute autre race étrangère. « Je suis heureux de vous entendre parler ainsi, sœur abbé, dit Robin. Vous me prouvez une fois de plus que le pur sang anglais coule dans vos veines. Je ne puis me poser en juge sur un point aussi délicat parce que j'ai peu voyagé et que, au-delà du Derbyshire et du Yorkshire, je n'en connais rien. Néanmoins, je suis fort porté à dire avec vous que les femmes saxonnes sont les plus belles femmes du monde. Bien certainement, elles sont les plus belles, s'écria Will d'un ton décidé. J'ai traversé une grande partie du royaume de France et je puis certifier que je n'ai pas rencontré une seule dame ou demoiselle qui puisse être comparée à Maud. Maud est l'idéal de la beauté anglaise, voilà mon opinion. Vous avez servi ? Demanda le roi en attachant sur le jeune homme un regard attentif. Oui, messire, répondit William, j'ai servi le roi Henri en Aquitaine, en Poitou, à Harfleur, à Évreux, à Beauvais, à Rouen et dans bien d'autres places. Ah ah ! S'exclama le roi en détournant la tête dans la crainte que Will ne finît par reconnaître son visage. Robin Hood, continua-t-il, vos gens se disposent à recommencer les jeux. Je serai bien aise d'assister à de nouveaux exercices. Il va en être fait selon votre désir, messire. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour former la main de mes archers. Much, s'écria Robin, faites placer sur les baguettes du tir des guirlandes de roses.